La dernière fois, nous avons fait un peu de cartographie culturelle et nous avons parlé de certaines figures qui, depuis le milieu du 19e siècle, disons, se sont aventurées dans quelque chose que j'ai appelé l'espace premier. En fait, tous les chemins, ou une grande partie des chemins dont nous avons parlé tout le long de cette année, débouche dans un certain espace, un espace dont je vais essayer de m'approcher aujourd'hui au moyen de trois concepts qu'on peut dessiner en quelque sorte en cercle concentrique. Donc le premier grand cercle, je vais l'appeler cosmopoéticité, et j'expliquerai ce concept un peu grotesque et extravagant tout à l'heure. Le grand cercle, le premier grand cercle, donc cosmopoéticité. Le deuxième cercle, poétique générale. Et le troisième cercle, le cercle intérieur, géopoétique. Donc cosmopoéticité, poétique générale et géopoétique. Le mot cosmos, qui est bien sûr présent dans cosmopoéticité, a surgi à plusieurs reprises au cours de nos rencontres. Un exemple. Chez Ezra Pound, vous avez d'abord un refus de ce mot comme étant trop vague. Ezra Pound disait à un moment donné, méfiez-vous des poètes qui n'ont que le mot cosmos à la bouche. Et il écrit le mot cosmos non pas C-O-S-M-O-S, mais K-A-W-S-M-O-S, c'est-à-dire il le prononce un peu à l'américaine, si je puis dire. Hein. Cosmos. Hein. Alors il dit, méfiez-vous des poètes qui ont ce mot à la bouche. Il pensait un peu à Walt Whitman. Qui sentait comme étant trop vague, il voulait lui beaucoup plus de précision. Mais le même Ezra Pound, vous vous rappelez, enfin plus tard, allait dire dans les Cantos, dans son long poème épique, que le but de toute poésie d'envergure était de faire cosmos. Et on peut dire que le mot cosmos, qui avait été un peu écarté de la pensée pendant longtemps, revient au premier plan de la pensée et de la poétique. Au début du XXe siècle, et le livre clé, le livre phare, le livre qui a attiré l'attention, c'était bien sûr le livre, l'étude d'Einstein. Einstein, 1917, Cosmologische Betrachtungen, les considérations cosmologiques, considérations cosmologiques. Et Einstein ne s'arrêtait pas à de purs concepts scientifiques. Il va même jusqu'à parler d'un sentiment cosmique. Et sentiment n'est pas, bien sûr, un concept scientifique. Je ne vais pas parler aujourd'hui spécifiquement des considérations cosmologiques, mais récemment, je lisais ou je relisais la correspondance entre Einstein et Born. Et quelquefois, c'est dans la correspondance qu'on voit des pensées plus intimes qui ne peuvent pas ou qui n'osent pas s'exprimer dans des cadres, disons, plus professionnels. Dans la correspondance entre Einstein et Born, on tombe sur des phrases très fertiles, très riches, très intéressantes. Par exemple, Einstein parle de sa manière de penser. Il dit que sa manière de penser est une manière sauvagement spéculative. Sauvagement spéculative. Ce qui veut dire qu'il ne procède pas selon des cadres. Sa manière est beaucoup plus bondissante, beaucoup plus saltatoire, une manière sauvagement spéculative de penser. Et il affirme, pour que la science, pour que la pensée, pour que la vie avance, tout cela étant lié, il faut sortir de la logique mécanique et spécialisée. Il faut sortir de la logique mécanique et spécialisée. Alors sans doute que la poésie, la poétique, c'est le langage à la fois le plus général, et qui essaye quand même de garder une précision. Il faut sortir de la logique mécanique et spécialisée et accomplir, je reviens à Einstein, un bond intellectuel énorme, un bond intellectuel énorme. Et ce qu'on peut constater dans certains aspects, dans certaines parties de la poésie, de la poétique du XXe siècle, c'est une tentative de faire un tel bond. J'aime beaucoup aussi, et c'est à retenir, je pense, dans l'espace que nous essayons d'explorer, sinon de définir. La phrase où Einstein parle de sa propre vie. Phrase où il dit ceci: je me sens si solidaire de tout ce qui vit, je me sens si solidaire de tout ce qui vit, qu'il m'est indifférent de savoir où l'individu commence et où il finit. Une certaine notion donc dans la personne non pas enfermée en elle-même, non pas définie par des cadres sociaux, je me sens si solidaire de tout ce qui vit, de tout ce qui vit, qu'il m'est indifférent de savoir où l'individu commence et où il finit. Donc une notion de l'être, une notion de la vie. Et puis il y a ce passage presque pathétique d'une lettre de 1927 où Einstein le scientifique, Einstein le mathématicien, se lamente de la distance qu'il peut y avoir entre ce qu'il appelle d'un côté les schémas logiques, et ça c'est la pensée de précision, la pensée mathématique, la pensée mathématicienne, et de l'autre côté, ce qu'il appelle les délicieuses tranches de vie. Il dit, si on veut la clarté absolue, le langage, c'est les mathématiques. Mais les mathématiques ne véhiculent pas les délicieuses tranches de vie. Et il dit, ça c'est la tragédie que moi je vis continuellement, cette séparation entre les délicieuses tranches de vie et le désir d'un langage le plus précis possible. Alors, là aussi, peut-être pourrait-on se permettre de dire que quand le langage poétique marche, si je puis dire, quand ça réussit, vous avez à la fois l'association d'une pensée précise, d'un langage précis, et de la véhiculation de délicieuses tranches de vie, l'expression de délicieuses tranches de vie. Il serait donc possible peut-être de concilier précision, clarté, chose qu'on n'associe pas souvent avec la poésie. Pour beaucoup, la poésie, c'est quelque chose de confus, de vague, peut-être de joli. Non, mais quelque chose de précis et aussi quelque chose de délicieux. Voilà donc, sans doute, le but de ce que je vais appeler dans un premier temps cosmopoéticité. Non pas encore le poème, ni même de la poétique, mais simplement une sensation de poéticité dans l'air, dans le monde, dans l'univers, dans le cosmos. Si vous regardez de près les carnets, voire les essais de poètes, de penseurs ou d'artistes, je pense aux arts plastiques, de peintres d'envergure, extrêmement peu sont ceux qui évitent un vocabulaire cosmologique, cosmopoétique, disons. Pensez par exemple à un des premiers à s'aventurer dans l'espace premier, comme on a dit la semaine dernière, Friedrich Nietzsche, celui qui disait « Restez fidèle à la Terre », hein, la phrase qu'on a citée la semaine dernière. Mais il a aussi un vocabulaire tout à fait cosmologique quand il dit ceci par exemple: « Il faut porter en soi un chaos afin de donner naissance à une étoile dansante. » Il faut porter en soi un chaos. Que l'origine de la création, c'est un chaos. De même que l'origine du cosmos, c'est un chaos. Il faut porter en soi un chaos afin de donner naissance à une étoile dansante. Une étoile dansante, ce serait ça, peut-être, le poème, ou l'expression artistique. Voilà donc pour un penseur, un poète penseur, un poète philosophe, un artiste philosophe. Il faut utiliser les traits d'union, parce qu'on entre dans un domaine où les définitions séparées ne jouent plus. Paul Klee, voilà un peintre. Et on va trouver un vocabulaire similaire. Paul Klee, je commence par le chaos. Je commence par le chaos. Le terrestre le cède en moi à la pensée cosmique. C'est clair. Le terrestre le cède en moi à la pensée cosmique. Il y a un élargissement de la conscience. Rilke, après un penseur, enfin disons un philosophe, après un peintre, Rilke, un poète, Rilke parle du souffle premier de la mer qui ne semble souffler que pour la terre première, pur espace faisant irruption de loin. Voilà sa description d'un vent sur la mer, souffle premier de la mer, justement quelque chose qui vient de l'espace premier, souffle premier de la mer, qui ne semble souffler que pour la pierre première, toujours cette notion de premier, pur espace, faisant irruption de loin. Irruption, on retrouve toujours ces mots un peu chaotiques justement, l'irruption d'une force, d'une énergie, faisant irruption de loin. Toujours chez Rilke, et la notion d'une espèce de sensation d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi, sans lui donner un nom, sans lui coller une étiquette, il y a une totalité à laquelle il nous arrive d'avoir part. Il y a une totalité à laquelle il nous arrive d'avoir part. Ou bien encore, et c'est une notion de l'identité qu'on a trouvée tout à l'heure chez Einstein, voici Rilke, disons à peu près la même chose. Je vis ma vie en cercle de plus en plus large. Je vis ma vie en cercle de plus en plus large. C'est-à-dire l'identité nullement limitée à la carte d'identité psycho-sociologique normale, disons. Je vis ma vie en cercle de plus en plus large. Et son but en poésie et en poétique, pour en terminer là, sur Rilke, son but c'est de présenter la vastitude, la variété, la complétude du monde, voilà l'aspect cosmopolitique, présenter la vastitude, la variété, la complétude du monde, et les trois mots sont bien choisis, la vastitude, la variété et la complétude, l'immensité, la multiplicité, et tout cela concentré dans une complétude, la vastitude, la variété, la complétude du monde, sous forme de pure preuve. Sous forme de pure preuve, voilà un langage presque mathématicien. Vous avez donc là la juxtaposition, plus que la juxtaposition, le mariage, de ces deux notions dont Einstein déplorait la séparation. Présenter la vastitude, la variété, la complétude du monde sous forme de pure preuve. Whitman, Walt Whitman, avec lequel on a commencé et que je tiens à représenter ici aujourd'hui, Walt Whitman, rappelez-vous, disait qu'il était prêt à abandonner tout ce qu'on appelle communément poésie. Tout ce que le poème ou la poésie peut avoir de connotation dans la plupart des esprits, il est prêt à l'abandonner, parce que lui, la vraie poésie est encore ailleurs. Prêt à abandonner, ma foi, qu'est-ce qu'on appelle communément poésie, thème affectif, hein, thème affectif, sentimental, prosodie établie, prosodie soignée, rime, etc., etc. Enfin, tout cela, toutes les connotations de la poésie, il est complètement prêt à les abandonner afin d'arriver à autre chose, afin de rendre, dit-il dans un de ses poèmes, afin de rendre, au moyen du langage, l'ondulation d'une vague. Voilà ce qu'il veut exprimer, voilà ce qu'il veut présenter, voilà ce dont il veut rendre la présence, l'ondulation d'une vague, et il va encore plus loin, la respiration de l'océan. C'est encore plus abstrait. La respiration de l'océan. Essayez de capter ça. Voilà le but poétique. Non pas de dire des choses que tout le monde connaît déjà, avec un joli langage, avec une armature prosodique, mais essayez de dire des choses qu'on capte rarement, sinon jamais. Et il y a un texte de lui, un poème de lui, qui dit cela très bien. C'est un poème qu'il a écrit dans le Colorado, un Platte Canyon, Colorado. Le poème dit ceci, je ne vais citer que quelques vers, avec des blancs. Spirit that formed this scene, these tumbled rock piles, grim and red, I know thee, savage spirit, we have communed together, mine too, such wild arrays. Was it charged against my chance they had forgotten art? To fuse within themselves its rules precise and delicatesse, the lyrics measured beat. But thou that revelest here, spirit that formed this scene, they have remembered thee. Donc on reprochait à Walt Whitman et à sa poésie de ne pas être de la poésie. Hein? On reprochait à ce poète qui maintenant est considéré comme un des plus grands du 19e, et plus que ça, à l'époque, beaucoup était prête à lui refuser le titre même de poète et à lui refuser la catégorie poésie à ce qu'il écrivait. C'est justement parce que sa poétique était différente. On ne peut pas mettre la poésie dans un seul sac. Il y a poésie et poésie, il y a poétique et poétique. Il faut toujours insister là-dessus. Donc le voici en train de contempler un chaos de rochers dans le Colorado et disant que ce qui l'attire dans ce chaos de rocher, c'est justement son aspect chaotique. Ce qui n'est pas ordonné selon des schémas simples, sinon simplistes. I know the savage spirit. Rappelez-vous Einstein, sa manière sauvagement spéculative de penser. Le même mot surgit. I know the savage spirit. Mine too such wild arrays. Savage et wild. Was it charged against my chance in forgotten art? On a reproché à mes chants qu'ils avaient oublié l'art. C'est que je suis prêt, effectivement, à oublier ce qu'on appelle l'esthétique, ce qu'on appelle l'artistique, mais c'est parce que je veux essayer de capter autre chose, a kind of spirit, une espèce d'esprit. À mon avis, le vocabulaire de Whitman est encore un peu flou, mais on voit où il voulait en venir. On voit ce qu'il voulait essayer de saisir. Il y a un des premiers à l'époque moderne à vouloir essayer de saisir ce genre de choses. Il a cette phrase qui en dit long, même si on pourrait discuter les termes. Whitman, pour définir le genre de pratique poétique qu'il valorise, dit ceci: The poets of the cosmos advance to first principles. Les poètes du cosmos avancent jusqu'au premier principe. À mon avis, ils n'avancent pas jusqu'au premier principe, il n'y a peut-être pas de principe, mais ils avancent dans un espace premier, où ils essaient de capter des sensations, des esquisses de monde, je dirais. Voilà donc pour la cosmopoéticité. Et j'utilise exprès un mot, disons, assez extravagant, pour indiquer l'extravagance de la pensée nécessaire dans ce domaine. Ensuite, après la cosmopoéticité, j'aimerais parler de quelque chose que je voudrais appeler poétique générale. Poétique générale, c'est un cercle, le deuxième cercle de notre exploration. Cette idée de poétique générale, on peut la trouver, bien sûr, ailleurs. Le XXe siècle n'est pas seul, le XIXe siècle n'est pas seul. On peut trouver les débuts de ce que je suis en train d'appeler poétique générale. On peut la trouver, par exemple, dans le romantisme allemand. Non pas le romantisme sentimental, non pas le romantisme fantastique, mais certaines phrases qu'on peut trouver, par exemple, dans l'encyclopédie de Novalis. Novalis, N-O-V-A-L-I-S. Voici ce que dit, par exemple, Novalis. Il parle de cette écriture chiffrée, que l'on rencontre partout, sur les ailes, sur la coque des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et pétrifications, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel. Une écriture, justement, du cosmos, une écriture du monde. Cette écriture chiffrée qu'on rencontre partout, sur les ailes, sur la coque des œufs, dans les nuages, dans la neige, dans les cristaux et pétrifications, à l'intérieur et à l'extérieur des montagnes, des plantes, des animaux, des hommes, dans les clartés du ciel. Et vous remarquez que les hommes sont pris dans la liste. Ils n'ont pas de situation privilégiée. Voilà donc le début de ce que je suis en train d'appeler poétique générale. Ou du moins, le début à l'époque moderne. Cette notion qu'il y a quelque chose d'écrit partout, non pas seulement dans le contexte et dans les textes humains. Et cette notion qui n'est que ébauchée, esquissée, partiellement captée au moment du romantisme, a été reprise après, et je pense qu'on trouve quelque chose de semblable chez Roger Caillois, quand il parle, lui, de poétique généralisée. Hein? Ça, c'est son expression à lui. Moi, je suis en train de parler de poétique générale, son expression à lui, c'est poétique généralisée. Qu'est-ce qu'il entend par cela ? Il dit ceci, par exemple, à propos de l'activité poétique, de l'écriture poétique, de l'expression poétique. Je n'ai jamais tenu la poésie pour un genre littéraire parmi d'autres, débordant peut-être la littérature par plusieurs caractères, qui d'ailleurs me paraissent discutables. Je la considérais comme une activité, pour ainsi dire, plus grave. Et poésie dans ce sens-là, bien sûr, ça dépasse la division prose et vers. Cette poésie-là peut être véhiculée soit par des vers, soit par de la prose. Enfin, ça, c'est indifférent. Caillois commence, comme il faut commencer, par critiquer radicalement, peu près tout ce qu'on appelle poésie, une critique très radicale. Il y a beaucoup de choses en poésie qu'il n'aime pas. Et pour saisir ce qu'il y a vraiment de valable en poésie, il y a des choses qu'il ne faut pas aimer. Voici ce qu'il dit, par exemple. Il se situe à l'opposé des fulgurations éparses, isolées, instantanées, extirpées des ténèbres intimes. Il veut une poésie qui soit une poésie de l'extérieur, qui parle du monde. Il veut une poésie descriptive, qui dise des choses. Il veut une poésie encyclopédique, qui veut sortir de la personne et essayer d'embrasser le maximum d'éléments du monde. Mais il veut une poésie concertée, concentrée. Une poésie extérieure, descriptive, encyclopédique et concertée. Et le genre de poésie qu'il aime est une poésie qui frôle la prose, qui est presque de la prose, qui a toutes les qualités de la prose. Ce n'est pas de la fantaisie, ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Beaucoup de gens, quand ils entendent n'importe quoi, ils disent « Oh, c'est de la poésie ». Pour lui, c'est justement le contraire de n'importe quoi. Il est, dit-il, une poésie sans images. Pour beaucoup de gens, la poésie, c'est une prolifération d'images. Il dit non, la poésie, la vraie poésie est sans images. Il est une poésie sans images, presque imperceptible au premier abord. Au premier abord aussi, toute comparable à la prose, et pourtant la plus éloignée d'elle. L'expression est nue, d'un dépouillement total, d'un naturel presque trivial, semblable à celui de la première phrase venue. Mais la différence lentement se fait connaître. La banalité apparente manifeste peu à peu de singuliers pouvoirs. Donc il existe au-delà de l'image, au-delà de la prolifération d'images poétiques, de la confusion métaphorique, il existe une simplicité, voire une banalité, qui contient une beauté plus rare, plus secrète. Donc, d'abord une poésie dépouillée, nue, mais qui dans sa nudité essaie de dire le maximum. Voilà le premier aspect donc de ce que Kaiwa appelle poétique généralisée. La deuxième notion, c'est que la poésie n'est pas limitée à l'être humain. Que c'est quelque chose qui est ailleurs et qui est partout, ce qu'on a vu tout à l'heure chez Novalis. Je reviens à Kaiwa, ce serait l'amoindrir que de faire de la poésie uniquement un luxe ou une fantaisie de la seule espèce humaine. Au-delà de la poésie humaine, je n'estime pas tout à fait exclu par principe de pouvoir un jour lui déceler quelque anticipation clandestine parmi les pierres inertes, turbulences encore secrètes, mais constitutives du monde dès ses états inertes et sourds. Donc, pour lui, il y a une poésie de la pierre, une poésie des pierres. Vous savez que Kaiwa a passé une grande partie de son temps à décrire des pierres ramassées ici et là, localement et exotiquement, par exemple des pierres trouvées à Tonnerre, près d'Auxerre, donc pas très loin de Paris. Et voici ce qu'il dit à propos de ces pierres ramassées dans la région de Tonnerre, ce sont des silex blancs et rubonnés. Il y lit des séismes minuscules poursuivant jusque dans les coins reculés de la matière, la rigueur qui essayait d'y invétérer je ne sais quel appétit de géométrie, plus déconcertant mille fois que le consentement naturel à la poussière et à l'érosion des choses. Il lit donc dans la pierre des géométries. Il y lit de la géopoétique, je dirais, pour prononcer tout de suite le mot auquel on reviendra tout à l'heure. J'admire, dit-il, d'une manière plus générale, j'admire dans la matière brute, la moins sensible, la présence de tracés sans nécessité et sans fantaisie. Sans nécessité et sans fantaisie. Jamais pareil, toujours parent, dérivant avec l'évidence d'un prototype abstrait, des symétries approximatives et inévitables. Il essaye donc de lire dans la matière, dans les pierres par exemple, des signes multiples et conjugués du monde et d'un monde cohérent. Dans ces signes épars, il y a une cohérence qu'il s'agit d'essayer de comprendre et d'essayer d'exprimer aussi. Comprendre, c'est sans doute ça le but de la science, du savoir, voire de la philosophie. L'exprimer en plus, avec savoir et philosophie derrière, c'est sans doute ça le but de la poétique. Et il en vient à cette notion chez lui de poétique généralisée. C'est ce que je viens d'évoquer, ça, chez Roger Caillois, c'est ce qu'il appelle poétique généralisée, entendant par ce terme généralisé ce qui dépasse l'espèce humaine. La poésie n'est pas limitée à l'espèce humaine. Et même ce qui concerne l'ensemble de l'univers, les choses comme les êtres. Une poésie généralisée qui ne serait pas particulière au langage humain, mais propriété de la nature tout entière. Une poétique s'appliquant à la totalité de l'univers. Voilà, pour lui, ce qu'il appelle la poétique généralisée. Ce serait une tentative d'atteindre, en dehors de tous les modes, en dehors de toutes les écoles, en dehors de toutes les modes passagères, d'atteindre à l'écriture permanente du monde. L'écriture radicale et permanente du monde. Comme s'il y avait une espèce de grammaire du monde, grammaire des éléments, une grammaire élémentaire, inscrite non pas seulement dans le cerveau humain, mais inscrite dans la matière même du monde. Comme s'il y avait un rapport d'ailleurs congénital, si je puis dire. J'allais dire essentiel, mais ce n'est sans doute pas le mot. Congénital, c'est peut-être le mot, comme il y avait une connaissance entre la terre et l'être. Comme s'il y avait une parenté donc congénitale entre l'esprit et l'univers, entre l'esprit et la matière. La même syntaxe qu'on peut lire dans une pierre, cette syntaxe, on peut en voir l'expression dans le cerveau humain, à de certains moments. J'appelle poétique donc, voici sa définition à Caillois de la poétique, j'appelle poétique l'ensemble de ces signes d'intelligence qui, au-delà des mots et des poèmes, mais les y incluant à titre d'intercesseur privilégié, au-delà des objets, des choses, des émotions, des situations, ce qui donne à chacun l'espace d'une seconde, la perception d'une énigme. J'appelle poétique l'ensemble de ces signes d'intelligence qui, au-delà des mots et des poèmes, mais les y incluant à titre d'intercesseur privilégié, au-delà des objets, des choses, des émotions, des situations, donne à chacun l'espace d'une seconde, la perception d'une énigme. Ces signes qu'il lit, cette grammaire qu'il perçoit, cette syntaxe dont il devient graduellement de plus en plus conscient, sont les résultats de force. Il est en train de lire des formes, mais les formes sont les résultats de force. Ce qui donne une forme, c'est une force. Il n'y a pas de forme sans force. Donc, au-delà des formes qu'il lit, au-delà de l'écriture même, il s'agit de voir quelle est l'énergie qui a donné lieu à cette écriture. Il n'y a pas de création sans énergie non plus. Il peut y avoir jeu, il peut y avoir toutes sortes de petites facticités, mais il n'y a pas grande création sans énergie, sans force. Donc, au-delà de l'écriture, au-delà des formes, il va ici de saisir le jeu de force qu'il y a dans l'univers. À partir de pierres, à partir de l'étude d'écorce d'arbres, par exemple, ou du tronc d'un arbre. Alors, parmi ces forces, on peut compter, par exemple, les pulsions telluriques. Les pulsions telluriques qui donnent les signes qu'on peut lire dans des pierres. Pulsions telluriques, donc, voilà un exemple de force. Un autre exemple de force, c'est la croissance organique. Si vous voyez une coupe, la coupe d'un arbre, vous étudiez la surface qui s'y révèle, vous avez des cercles concentriques. Hein? Vous avez des cercles concentriques, des cercles plus clairs et des cercles plus noirs. Hein? Les cercles plus clairs étant la croissance pendant l'été, les cercles plus sombres étant la croissance pendant l'hiver. Donc ça, c'est la croissance organique et le déroulement des saisons qui a donné lieu à une écriture. Hein? Donc l'écriture, justement, n'est pas séparée du monde. Au contraire, la vraie écriture vient d'un rapport avec le monde. Hein? De même que l'arbre a écrit ses cercles concentriques à partir de sa croissance, de même que la pierre s'est appropriée un système de signes à cause de pulsions telluriques, De même, la vraie écriture, la forte écriture d'un être humain viendrait justement d'une espèce d'ouverture, du fait d'être exposé à quelque chose qui est l'équivalent de pulsion tellurique et de croissance organique, et qui n'est peut-être pas l'équivalent d'eux, mais qui est cela, hein? C'est pour ça que je me suis permis à un moment donné de parler de quelque chose qu'on pourrait appeler biocosmographie. Et c'est encore un concept qui peut paraître complètement extravagant, mais d'après ce que je viens de dire, je pense que ça prend plus de sens. Ou disons, son sens est plus évident. Biocosmographie, une écriture qui vient de la rencontre entre la vie, bio, bios, et le cosmos. Il y a d'autres forces qui donnent lieu à des écritures et à des formes. Il y a la géochimie, il y a la chimie de la terre, il y a la circulation des sèves et des essences. Ça aussi donne lieu à des écritures, à des formes, à des signes. Et puis, il y en a d'autres, des forces et des jeux de forces. Il y a ce qu'on appelle des enveloppes thermodynamiques, des espèces de paquets ou de poches thermodynamiques où la matière évolue selon la force thermodynamique. D'autres forces sont bien sûr les vibrations périodiques. Hein? Les vibrations périodiques, la périodicité des marées par exemple, ça aussi, ça crée des formes. Vous n'avez qu'à vous promener sur la plage pour les voir, pour les lire, pour lire le monde de cette manière-là, pour lire les longueurs d'onde, si je puis dire. Et ces longueurs d'onde peuvent être inscrites, écrites d'une manière tangible, elles peuvent être aussi beaucoup plus abstraites, mais elles sont là. Donc le monde devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus intelligent. Beaucoup plus intelligent qu'une intelligence séparée de tout cela. Parce qu'il y a plusieurs formes d'intelligence aussi. Il y a une intelligence séparée, et il y a une intelligence sensible et en contact. Donc Kaiwa voudrait une poésie de l'être humain qui soit l'équivalent et qui soit en rapport avec ces poétiques inscrites dans la pierre, dans les arbres, dans le sable, dans la mer, dans les vents qui entourent une montagne, hein, parce qu'il y a le jeu météorologique aussi. Ça aussi, c'est une écriture, ce sont des formes en mouvement. Donc il voudrait une poésie de l'être humain qui soit à la hauteur de cela, à la hauteur et à la densité de cela. Et en même temps, il s'intéresse à certaines inventions de l'esprit humain, qui dit ne pas être si fantastique qu'on ne pourrait croire. Certains éléments de vieux contes l'intéressent. Il essaie de voir un rapport, si je puis dire, entre l'éponge, qui est peut-être la forme, une des formes les plus primitives de la croissance, l'éponge, et les songes, quelques songes de l'être humain, qui percent à travers certains contes tout à fait impersonnels. Il ne s'agit pas d'une littérature personnelle, là, il s'agit d'une littérature qui dépasse la personne. Donc il essaye de voir un rapport entre l'éponge, par exemple, c'est moi qui dis ça, seulement pour la rime en quelque sorte, entre l'éponge et le songe. Il passe un certain temps, par exemple, à présenter, à analyser un vieux conte japonais où les samouraïs, après une grande bataille, plongent dans la mer et ils deviennent des crabes. Et il dit que c'est une invention qui, à première vue, peut paraître seulement bon, de la fiction fantastique, voire fantaisiste, mais de manière plus profonde, c'est vrai qu'entre un crabe et un samouraï avec son armure, il y a une correspondance, disons, troublante, dit-il. Les dames de la cour, après la même bataille, les dames de la cour deviennent des poissons. Hein? Des poissons d'or, évidemment. On pourrait continuer après les exemples donnés par Kaiwa, on pourrait en ajouter d'autres, bien sûr, chacun selon ses souvenirs et son répertoire. Mais moi, j'aimerais évoquer simplement un vieux conte encore japonais. Mais bien sûr, il n'y a aucune polarisation sur le Japon. On peut en trouver aussi, bien sûr, en Occident. Mais il y a un très très vieux conte japonais qui parle du premier empereur du Japon, le tout premier, mythique, bien sûr, complètement légendaire, mais qui aurait été guidé vers la terre du Japon, vers la terre première du Japon, vers l'espace premier du Japon, par un corbeau. C'est le corbeau qui est l'intercesseur valable, essentiel. Par rapport à Kaiwa, peut-être que je ne suivrai pas jusqu'au bout dans ces rapports entre l'éponge et le songe. Quelquefois, on peut sentir que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux. Peut-être aussi chez lui, il y a quelquefois un excès de description dans ses livres sur les pierres, par exemple. On aimerait qu'il y en ait moins, mais qu'on entre plus vite dans un espace plus large. Et puis Kaiwa, parce que beaucoup de poésie écrite l'a agacé, et ça je le comprends très bien, fort bien, ô combien, mais il est complètement contre la poésie écrite, et je ne vois pas pourquoi. La poésie écrite me semble offrir des avantages, d'abord des avantages de permanence, ensuite des avantages de concentration. Avec un texte écrit, vous avez la possibilité d'une concentration, d'une méditation plus permanente et plus approfondie. Ensuite, selon sa propre logique, je ne vois pas pourquoi on valoriserait l'écriture des pierres, par exemple, et non pas l'écriture de la main humaine. Je vois pas les raisons là. Donc je serai à l'encontre de lui, partisan, non pas à l'exclusion de la poésie orale, loin de là, je ne vois pas la nécessité de rejeter l'une ou l'autre, au contraire, mais je serai partisan, beaucoup plus partisan que lui, de la poésie écrite, pour les raisons que je viens de dire. Des raisons de logique et des raisons aussi de pratique, disons, méditative. Et puis, bien sûr, l'autre avantage de la poésie écrite, c'est que ça peut voyager. Hein, les livres voyagent et c'est quand même un avantage. J'en arrive maintenant au cercle le plus intérieur de nos cercles concentriques, et c'est le cercle de ce que je voudrais appeler le cercle de la géopoétique. Bon, géopoétique, comme pour les autres concepts, ce concept peut paraître extravagant à première vue, mais une fois que vous le regardez un peu étymologiquement, c'est tout simple, géopoétique. La poétique, la poésie de la terre. Et vous vous rappelez que la semaine dernière, nous parlions en termes de culture, et nous disions que ce qui définissait la culture au sens profond du mot, ce qui définit une culture au sens profond du mot, c'est qu'il y a, dans un groupe humain, un consensus sur les motifs et les motivations. Il faut qu'il y ait un consensus sur ce qui vaut la peine qu'on s'y intéresse. Par exemple, on avait évoqué le cas du Moyen-Âge, la culture chrétienne du Moyen-Âge. Tout le monde se réfère d'une manière plus ou moins abstraite à la Vierge Marie, par exemple. Hein? Il y a un motif central. Prenez la culture grecque. Là, vous avez comme motif central la poésie d'Homère, hein, la poésie homérique. Pensez à une tribu primitive, une tribu paléolithique, par exemple. Là, au centre, vous avez la chasse et le chamanisme. Les chants du chaman sont le centre. Donc, à chaque fois que vous avez affaire à une culture forte, vous avez affaire à un motif central et à une poésie de ce motif-là. Au centre de chaque culture forte, quand il y en a une, il y a une poésie, il y a une poétique. Alors, il me semble qu'aujourd'hui, et bien sûr, c'est moi qui parle, hein, il me semble qu'aujourd'hui, la seule chose que nous ayons en commun, la seule chose commune, peut attirer toute notre attention, au-delà de toutes les idéologies, au-delà de toutes les nationalités, au-delà de toutes les différences de quelque ordre que ce soit, la seule chose que nous ayons fondamentalement en commun, c'est la Terre. c'est la terre. Voilà donc notre, à mon avis, notre motif, voilà notre préoccupation centrale. Non pas en simple terme d'environnement, comme on a vu la semaine dernière, mais en termes beaucoup plus profonds. Il s'agit bien sûr de préserver l'environnement, mais au-delà de ça, il s'agit d'établir un rapport avec quelque chose qui, vu d'une manière plus profonde, est beaucoup plus que de l'environnement. C'est quelque chose dans lequel on est impliqué, ce n'est pas seulement quelque chose qui nous environne. Donc, parlons maintenant de géopoétique. Avant d'entrer un peu plus loin dans cette matière, je voudrais simplement lire je voudrais en arriver là aujourd'hui, lire le texte inaugural de l'Institut international de géopolitique que j'ai fondé l'année dernière. Donc voici donc ce texte inaugural qui parle de géopolitique et qui présente ça comme étant le centre possible d'un mouvement culturel d'aujourd'hui. Ce qui marque cette fin du XXe siècle, au-delà de tous les bavardages et de tous les discours secondaires, c'est le retour du fondamental, c'est-à-dire du poétique. Toute création de l'esprit est fondamentalement poétique. Ce qui marque cette fin du XXe siècle, au-delà de tous les bavardages et de tous les discours secondaires, c'est le retour du fondamental, c'est-à-dire du poétique. Bien sûr, je n'entends pas ça d'une manière publique. Quand je dis que ce qui marque cette 20e siècle, c'est le retour du fondamental, c'est-à-dire du poétique, je ne veux pas dire que tout le monde est en train de se ruer sur les librairies de poésie, ni que les politiciens, entre deux discours, sont en train de lire Homère ou Walt Whitman, par exemple. Ce n'est pas ça que je veux dire. J'aurais tort, évidemment. Non, ce que je veux dire, c'est que à la pointe de la réflexion, à la pointe de la pensée, le poétique, la poétique, commence à retrouver une valeur qu'elle avait perdue pendant longtemps. Mais, bien sûr, il s'agit de savoir maintenant où se trouve la poétique la plus nécessaire, la plus fertile. C'est ça le but de toutes nos rencontres. Il s'agit de savoir où se trouve la poétique la plus nécessaire, la plus fertile, et de l'appliquer. Appliquer la poésie, c'est une idée qui peut heurter beaucoup d'esprits, mais à mon avis, effectivement, ce serait quelque chose à utiliser. Et qu'on n'utilise pas. Si vers 1978, j'ai commencé à parler de géopolitique, c'est d'une part parce que la Terre, la biosphère, était de toute évidence de plus en plus menacée, et cela, tout le monde en est conscient, à des degrés plus ou moins profonds, et d'une manière plus ou moins superficielle, de toute évidence de plus en plus menacée, et qu'il fallait s'en préoccuper d'une manière à la fois profonde et efficace. Profonde et efficace. Quelquefois on est efficace mais superficiel, et quelquefois on est profond sans efficacité. Essayez de lire les deux, profond et efficace, ce n'est pas facile. D'une manière à la fois profonde et efficace. D'autre part, parce qu'il m'était toujours apparu que la poétique la plus riche venait d'un contact avec la Terre, d'une plongée dans l'espace biosphérique, d'une tentative pour lire les lignes du monde. C'est de cela que nous venons de parler. Depuis, ce mot a été repris ici et là, dans des contextes divers. Le moment est venu de concentrer ces courants d'énergie dans un champ unitaire. C'est pour cela que nous avons fondé l'Institut de géopoétique. Avec le projet géopoétique, il ne s'agit ni d'une variété culturelle de plus, ni d'une école littéraire, ni de la poésie considérée comme un art intime. Il s'agit d'un mouvement majeur qui concerne les fondements mêmes de l'existence de l'homme sur la Terre. Dans le champ géopolitique fondamental se rencontrent des penseurs et des poètes de tous les temps et de tous les pays. Pour ne citer que quelques exemples, on peut penser en Occident à Héraclite le grec, l'homme est séparé de ce qui lui est le plus proche. À Hölderlin, poétiquement vit l'homme sur la terre. À Heidegger, topologie de l'être. À Wallace Stevens, les grands poèmes du ciel et de l'enfer ont été écrits, reste à créer le poème de la terre. En Orient, il faudrait penser au taoïste Chuang Tzu et à l'homme du vieil étang Matsuo Basho, le japonais, sans oublier la belle méditation du monde que l'on trouve dans le Huayan Sutra. Le Huayan Sutra. le Huayen Sutra qui présente le monde comme une immense toile d'araignée. Et à chaque intersection des fils, il y a de la rosée. De sorte que chaque globule de rosée est en train de refléter le monde entier. Mais la géopoétique ne concerne pas que poètes et penseurs. Henry Thoreau, Amérique, 19e siècle, était autant ornithologue et météorologue, il aimait s'appeler inspecteur de tempête, que poète. Ou plutôt, il incluait les sciences dans sa poétique. Pas un refus de la science de la part des poètes, mais au contraire, une tentative de les englober. Il incluait les sciences dans sa poétique. Les liens de la géopoétique avec la géographie sont évidents, le mot même le dit, mais existent aussi avec la biologie et avec l'écologie, y compris l'écologie de l'esprit, bien approfondie et bien développée. En fait, la géopoétique offre un terrain de rencontre et de stimulation réciproque, non seulement, et c'est de plus en plus nécessaire entre poésie, pensée et science, mais entre les disciplines les plus diverses, dès qu'elles sont prêtes à sortir de ce cadre souvent trop restreint et à entrer dans un espace global, cosmologique, cosmopoétique, en se posant la question fondamentale, qu'en est-il de la vie sur Terre, qu'en est-il du monde? Tout un réseau peut se tisser, un réseau d'énergie, de désir, de compétences et d'intelligence. Voilà donc le discours inaugural, le texte inaugural de l'Institut international de géopoétique. Dans ce mot géopoétique, on constate tout de suite, bien sûr, une rencontre entre la science et l'art, ce dont je parlais tout à l'heure par rapport à Einstein. Et cette idée, qui me semble un concept assez fertile, bien sûr, est amenée à se développer. Quant à l'Institut lui-même, c'est un tâtonnement vers une entreprise collective. En l'intitulant Institut de géopolitique, Institut international de géopolitique. Je pensais entre autres à l'Institut de sémantique créé aux États-Unis dans les années 30, voué à l'exploration d'une logique dépassant la logique aristotélienne. Et je pensais aussi au Collège de sociologie créé en France il y a quelques années, par Roger Caillois, déjà mentionné, et Georges Bataille. Et pour le moment, l'Institut me donne un peu l'impression d'être un peu un chantier à ciel ouvert, une tentative d'un mouvement à la fois créateur et organisateur, qui tourne autour de trois notions, pour résumer tout un travail complexe en cours. Ça tourne autour de trois notions. Ça tourne autour de la notion d'identité, ce que c'est que de vivre sur la Terre. Ça tourne autour du langage et ça tourne autour de l'espace. Pour dire ça d'une manière plus rapide, disons qu'il s'agit du moi, du mot et du monde. Le moi, le mot, le monde. Voilà les trois concepts qui sont au centre de l'Institut de géopolitique. Alors très rapidement, le moi d'abord. Voici Valérie, un esprit, tout ce qu'il y a de pas mystique, si je puis dire, tout ce qu'il y a de plus intellectuel, tout ce qui est le plus incisif, voici ce qu'il dit. Je dirais que ce qu'il y a de plus réel dans la pensée est ce qui n'y est pas image naïve de la réalité sensible. Mais l'observation, d'ailleurs précaire et souvent suspecte, de ce qui se passe en nous, nous induit à croire que les variations des deux mondes sont comparables, ce qui permet d'exprimer, grosso modo, le monde psychique, proprement dit, par des métaphores empruntées au monde sensible, et particulièrement aux actes et aux opérations que nous pouvons physiquement effectuer. L'homme universel commence par contempler simplement, et il revient toujours à s'imprégner des spectacles. Il retourne à l'instant particulier et à l'émotion que donne la moindre chose réelle quand on les regarde tous deux, si bien clos par toutes leurs qualités, et concentrant de toute manière tant d'effets. Donc, il dit qu'il y a plus qu'un pont, il y a un rapport intime entre le monde des images vues et le monde des concepts. Donc une notion de moi qui dépasse la personne et qui essaye de dire un espace qui englobe ce qu'on appelle, dans un langage beaucoup plus simpliste, le dedans et le dehors. Kant, le philosophe, disait ça d'une autre manière, le moi subjectif et le monde qui contemple doivent être considérés comme les deux faces, la double manifestation et le double produit d'un même principe. Très rapidement, donc, voilà pour le moi une notion d'identité. Ensuite, le mot. Humboldt, linguiste, explorateur et tout le reste, disait que, à beaucoup d'esprits, il peut sembler étrange d'associer la poésie aux sciences et à la philosophie et à l'histoire. Mais il dit que tout cela peut être réuni en une seule masse compacte, une seule masse presque diamantine, à deux occasions. Soit quand vous avez affaire à une très forte culture, quand vous avez affaire à une culture profonde. Donc ce serait un moment de l'histoire. Soit quand dans un individu, il y a des moments de concentration privilégiés. Toujours à propos des mots, je voudrais citer maintenant un poète français, Saint-Jean de Perse, et les citations que je vais donner auront tout de suite, je pense, dans vos esprits un rapport avec des choses qui ont été dites tout à l'heure. Saint-Jean de Perse, par exemple, parle de les écritures nouvelles encloses dans les grandes schistes à venir. Ou bien, il parle du plus grand récit des choses par le monde. Le plus grand récit des choses par le monde. Quelquefois, on définit la situation postmoderne qui est la nôtre comme étant un contexte culturel. Il n'y a plus de grands discours, il n'y a plus de grands récits, il n'y a plus de mythes, par exemple. C'est vrai, et ce n'est absolument pas à lamenter, parce que ce qui peut prendre la place des grands discours et des grands mythes, c'est ce que Saint-Jean de Perse appelle le grand récit des choses. Et avec ces notions de moi, avec ce langage-là, vous avez le début d'un monde, un monde vivable. Un monde, c'est ce qui émerge d'un contact profond, riche, fertile, entre l'être humain et la terre. L'être humain, en contact avec la terre, c'est ça qui donne un monde. Et la qualité du monde dépend bien sûr de la qualité du rapport entre l'être humain et la terre. Souvent ce rapport est un mauvais rapport, ce qui fait que le résultat n'est pas un monde, mais c'est de l'immonde. Donc vous avez là les débuts, les premières esquisses d'un monde vivable et un monde en mouvement. Voilà donc les buts de l'Institut de Géopolitique, l'Institut international de géopolitique, dont ce sera le travail de maintenir dans le contexte qui est le nôtre toute l'étendue et toute la profondeur de l'enjeu que je viens d'essayer d'esquisser.